France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre, dernière étape de mon parcours à travers les 9 symphonies de Ralph Vaughan Williams, composées sur un grand laps de temps, hein, presque 50 ans. La première est de 1910 et la dernière de 1958. Alors les trois premières étaient parfois vocales, elles ne portaient pas de numéro mais des titres, La mer, Londres, Pastoral. Les trois suivantes, purement instrumentale, et elle s'appelait simplement 4, 5 et 6. Et voilà que la septième revient à la voix et au choix d'un titre, au point que certains musicologues la considèrent plus comme une cantate ou un poème symphonique que véritablement comme une symphonie. Son titre, Sinfonia Antarctica, Vaughan Williams réutilise une partie de la musique qu'il avait composée pour le film d'aventure L'épopée du capitaine Scott de 1948, inspiré par une expédition au pôle sud. Alors on a besoin d'une soprano, d'un chœur, d'un grand effectif d'orchestre. Le début est conquérant et puis place au mystère de l'immensité. Vous entendrez la soprano, un chœur sans parole, une machine à vent, ainsi qu'un célestat et une harpe cristallin. C'est toujours la version André Prévin avec le London Symphony, les Ambrosian Singers et toujours la magnifique Heather Harper. On sent que c'était une musique de film au départ, cette Sinfonia Antarctica de Vaughan Williams. Je passe sur le deuxième mouvement pour m'arrêter un peu sur le troisième, sous-titré Landscape, paysage. C'est un mouvement lent qui commence piano et qui va crescendo en diffusant un sentiment d'angoisse face à la nature hostile. Il y a même un orgue qui viendra s'ajouter à l'orchestre pour faire la basse. Quant à l'épilogue de la Sinfonia Antarctica, il n'est plus tellement dans le pittoresque ou le descriptif, c'est plutôt la fin de la quête des explorateurs dans l'Antarctique. Mais comme souvent chez Vaughan Williams, c'est peut-être aussi tout simplement la fin de la vie. En tout cas, il y a des réminiscences des thèmes du début et la soprano et le chœur concluent avec la machine à vent.
Thank you.
Ce n'est pas l'habituel Sir Adrian Boult qui a créé cette Sinfonia Antarctica en 1953, mais un autre chef proche de Vaughan Williams, Sir John Barbirolli. Alors, où en est Vaughan Williams à cette époque? Il a 80 ans. Sa femme est morte en 1951 après de longues années de maladie et 2 ans plus tard, il se remarie comme c'était prévu avec Ursula. Il a des activités associatives pour promouvoir la nouvelle musique par exemple. Il est aussi président depuis 1932 de la Société britannique de chants populaires. Il s'est toujours passionné pour le folklore. Il donne des cours, des conférences en Europe et aux États-Unis. Il reçoit des titres. Bref, c'est devenu le grand ancien de la musique britannique. Ses dernières œuvres divisent la critique. Parfois, il semble avoir envie de s'amuser. Par exemple, avec son concerto pour tuba, qui est très spirituel et que je vous avais passé dans mon émission sur le tuba. Eh bien, sa 8e symphonie aussi est assez ludique. Elle est créée en 1956, à nouveau par Barbirolli. Et après toutes ses œuvres pour très grande formation, il revient à un effectif quasi mozartien, avec les bois par deux. Enfin, on pourrait dire mozartien s'il n'y avait pas un xylophone, un vibraphone, des gongs et des cloches tubulaires. Le premier mouvement est un jeu, une série de variations, sauf que d'habitude, qui dit variation dit sur un thème. Or là, ce sont des variations sans thème. Vaughan Williams l'a d'ailleurs titré « Fantaisie ». Elle est pétillante, hein, la 8e symphonie de Vaughan Williams, c'est toujours dans l'esprit de légèreté. Le 2e mouvement est un scherzo, il est simplement sous-titré « Per strumenti a fiato » pour les instruments avant. Et ma foi, il s'y tient, c'est une toccata. Je ne crois pas qu'elle cherche autre chose que se faire plaisir, et après tout, il n'y a pas de mal à ça.
Thank you.
J'en arrive maintenant à la 9e et dernière symphonie de Ray Vaughan Williams, un des rares, après Beethoven, à avoir atteint le chiffre 9 qui obsédait Bruckner et Mahler. Elle est achevée à la fin 1957 et créée par Sir Malcolm Sargent, auquel j'ai consacré récemment un portrait de chef oublié. La création a lieu le 2 avril 1958, soit 4 mois avant la mort du compositeur. Et lorsque Sir Adrian Boult l'enregistre fin août 1958, il commence la première session en annonçant à l'orchestre la mort de Vaughan Williams qu'il vient tout juste d'apprendre. L'atmosphère de la 9e est nettement plus sombre que dans la très légère 8e. Son ton est plutôt amer et pessimiste, malgré quelques moments lumineux. Une fois de plus, Vaughan Williams a brouillé les pistes, comme s'il répugnait à avouer qu'il s'inspire d'un argument extra-musical. Or là encore, sa femme nous apprend qu'il avait pris des notes sur le roman « Tess of the D'Urbervilles » de Thomas Hardy. Alors on retrouve cette fois le grand orchestre, avec en plus 3 saxophones, un pupitre de percussion élargi et un bugle qu'on entend à la fin du premier mouvement, après un solo de violon très expressif et solitaire, avec juste une harpe, un roulement de timbales, un cor anglais et les saxophones qui rappellent comme un paysage dénudé.
Thank you.
L'atmosphère sombre, voire désespérée de la fin du premier mouvement de la neuvième de Vaughan Williams, Landante est assez pessimiste lui aussi, et il mène à un épisode central, menaçant, vous entendrez des arpèges de harpes, des cloches, et qui aboutit à une marche lourde et brutale. Je ne le rappelle pas à chaque fois, c'est dans la version André Prévin que je vous fais entendre les symphonies de Vaughan Williams. Le final de la neuvième et dernière commence plutôt en douceur, puis enfle jusqu'au fortissimo sur un accord de mi majeur, comme par vagues successives. Figurez-vous que Vaughan Williams a rallongé la fin sur la suggestion du chef Adrian Boult, qui trouvait cette fin trop abrupte. Alors désormais, après le fortissimo, on retombe vers le silence. L'œuvre a reçu une ovation à la création, mais sans doute plus par respect pour le vieux compositeur, car la critique, elle, a été perplexe. Cette neuvième a mis plusieurs années avant de se faire accepter.
Thank you.
Quelques semaines après la création de sa 9e symphonie, Ralph Vaughan Williams meurt en bonne santé, soudainement, le 26 août 1958, à 85 ans. Il est incinéré et ses cendres reposent près de la tombe de Purcell, dans l'aile nord de l'abbaye de Westminster. J'espère surtout vous avoir convaincu qu'il était anormal que les symphonies de Vaughan Williams ne soient pas au répertoire de nos orchestres. Raison de plus pour saluer Tarmo Peltokoski, le jeune prodige finlandais qui est directeur musical de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse et qui a prévu de se lancer dans un cycle. Je sens que je vais aller à Toulouse. C'est toujours un plaisir de voir à l'œuvre le tandem Marie Groux, Benjamin Vignal à la réalisation et au mixage de cette émission, tout comme de vous retrouver à l'écoute d'Au cœur de l'orchestre. À très vite sur France Musique.
Relax. De 15h à 16h30, Lionel Esparza, France Musique.
Son nom ne vous dira peut-être rien, pas le plus exposé ni le plus célèbre chef d'orchestre du circuit. Pourtant, il étonne à chacune de ses prestations, à l'opéra comme en symphonique. Antonello Manacorda est aujourd'hui mon invité en direct dans Relax à 15h.
Relax, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
Ce jeudi, l'Orchestre National de France retrouve Christiane Matchelarou pour le premier des 5 rendez-vous du National avec Rachmaninov. Outre les danses symphoniques, nous entendrons Entr'acte de l'américaine Caroline Shaw et le concerto pour piano numéro 1 de Chopin sous les doigts de Bruce Liu. Rendez-vous en direct ce jeudi à 20h sur France Musique et l'appli Radio France.
France Musique, les essentiels. François-Xavier Chemchak.
Bonjour et bienvenue, voici les essentiels du compositeur William Walton, suite de notre double série sur quelques musiques britanniques des 19e et 20e siècles, après Hubert Parry, Ethel Smyth, Arnold Bax, Frank Bridge, Gilbert and Sullivan, après Edward Elgar, Gustav Holst et Ralph Vaughan Williams. Voici donc quelques œuvres de ce William Walton, né en 1902, décédé en 1983, et qui a fait connaître son œuvre dès ses 20 ans avec une partition intitulée « Façade ». France Musique, vous venez d'entendre l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham dirigé par Louis Frémaux dans une valse extraite de Façade de William Walton, partition conçue en 1922. Il avait 20 ans, William Walton, et il avait 21 ans même en 1923 lorsque la partition a été créée à Londres dans l'Aeolian Hall avec des poèmes d'Edith Sitwell qui déclamait elle-même ses vers à travers un mégaphone, ce qui a fait un petit scandale, un peu dans l'esprit potache du groupe des Six de ce côté de la Manche. Façade, c'est une partition qui a permis de faire connaître William Walton et qui l'a imposé un peu comme un avant-gardiste, même si ce qu'on vient d'entendre est tout à fait conventionnel d'un point de vue harmonique. Il n'empêche que c'était un des compositeurs anglais qui s'intéressait le plus aux modernités du XXe siècle, ce début du XXe siècle, les œuvres de Stravinsky, de Debussy, ou encore d'Albert Roussel. Et il va même attirer l'attention avec un quatuor à cordes audacieux de Arnold Schoenberg et d'Albin Berg, les membres de la seconde école de Vienne. Mais le langage musical de William Walton va rapidement se détourner de ses voix modernistes pour un langage plus conventionnel, mais quand même intéressant à travers des partitions qu'on joue encore aujourd'hui, comme son concerto pour alto de 1928. C'est une partition que Walton avait conçue pour un certain Lionel Tertis, qui était le grand altiste de l'époque, mais qu'il avait refusé. Et finalement, c'est Paul Hindemith, et oui, le grand compositeur Paul Hindemith, qui était également altiste virtuose, qui avait créé ce concerto en 1929 lors des Proms de Londres. Voici sur France Musique l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par André Prévin, qui accompagne ici Yuri Bashmet dans cette page signée William Walton. Thank you. C'est en 1994 que l'altiste Youri Bashmet avait enregistré le concerto de William Walton, dont c'était le premier mouvement, Andante Commodo, partition ici accompagnée par l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par André Prévin, le LSO, qui est notre fil rouge de la semaine, un orchestre avec lequel William Walton a souvent travaillé, comme tous ses compositeurs anglais, bien évidemment. Et on va écouter maintenant une partition sacrée de William Walton, en tout cas une évocation d'un texte biblique, c'est la fête de Balthazar. Si vous passez par Londres et que vous avez la bonne idée de voir, de visiter le National Gallery, parmi les milliers de merveilles qu'on peut y admirer, ne manquez pas le festin de Balthazar de Rembrandt. On y voit le roi babylonien somptueusement vêtu en plein repas et il voit s'inscrire mystérieusement sur le mur les mots « Mene, mene, tekel, upharsin ». Il a compté une mine, un cycle et deux demi-cycles. Ce roi babylonien avait utilisé une argenterie sacrée pour les juifs, pour son festin. Et il en sera puni de mort lors de cet événement qui est évoqué dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Voici donc un extrait de cette partition de 1931, Belshazzar's Feast de William Walton.
Yeah.
2008, au Barbican Hall de Londres, le chœur et l'orchestre symphonique de Londres étaient dirigés par Sir Colin Davis dans cet oratorio de William Walton sur un texte de Osbert Sitwell, le frère de Edith Sitwell que je citais tout à l'heure, inspiré bien sûr de l'Ancien Testament. C'était la fête de Balthazar, Belshazzar's Feast, avec cette célébration à l'instant, alléluia, du peuple hébreu en captivité et qui se réjouit de la mort de Balthazar après ce sacrilège. Alors William Walton, dans ses années 30, va se faire connaître pour une symphonie numéro 1 en si bémol mineur qui témoigne de l'influence de Jean Sibelius, qui témoigne également de sa ferveur alors qu'il n'a que 30 ans à ce moment-là. Il a 30 ans et l'exprime pleinement dans cette œuvre qui a été enregistrée de nombreuses fois par des grands chefs d'orchestre. Par exemple, André Prévin, à la tête de ce même LSO, on écoute le final majestueux, maestoso, de cette première symphonie en si bémol mineur de William Walton sur France Musique.